Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, les Nations Unies célèbrent aujourd'hui la Journée mondiale des villes. Le Conseil de sécurité a discuté hier après-midi de la situation au Burundi. À Genève, l'ONU a fait le point cette semaine sur la mise en œuvre du programme d'action adopté à Beijing en 1995 sur l'autonomisation des femmes et des filles. Et en dossier, un chercheur à Météo France nous explique pourquoi il est important de connaître ce qui se passe dans les zones de haute montagne qui sont affectées par le changement climatique. Les Nations Unies célèbrent aujourd'hui la Journée mondiale des villes, l'occasion pour le secrétaire général de l'ONU de plaider pour des idées novatrices permettant d'offrir une vie meilleure aux générations futures. L'UNESCO a réuni à Paris 24 municipalités de toutes les régions du monde pour partager leurs expériences et solutions. L'un des participants, Abdallah Slimani, leader du collectif Policité, est venu expliquer que la cohésion sociale est possible. Sa ville de Vaux-en-Velin, en France, connaît depuis 20 ans des tensions entre la police et la population. Depuis que son collectif organise des débats et des rencontres, les rapports se transforment. On l'écoute.
Bien sûr que oui, je dirais tout d'abord juste sur les jeunes. Les relations entre la police et la population, ils ont leur préjugés à changer. La plupart des jeunes avant là, nous avons une mauvaise image de la police. Et en fait, en apprenant sur les institutions, en apprenant le comportement de la police et en débattre avec la police, en fait, on change notre image. Et du coup, oui, ça a un impact sur certains jeunes et même sur les policiers. Puisque les jeunes pensaient que la police était là pour arrêter, pour déranger les jeunes, alors que la police, au contraire, eux pensaient que les jeunes, c'est des délinquants, ils foutent rien de leur journée, ils sont dehors. Ils énervent tout le monde, ils nous jettent des pierres, alors que chez les jeunes, nous, on se défend parce que, voilà, ils nous attaquent, dès qu'ils nous arrêtent, ils nous tapent. C'est plusieurs préjugés. Eh bien, en fait, les policiers ont compris que tous les jeunes n'étaient pas des délinquants et qu'il fallait faire la différence et que, en fait, il y a un comportement à avoir auprès de ces jeunes-là et vice-versa. Les jeunes doivent avoir un comportement adéquat face à un contrôle, face à des policiers. Rien n'est inchangeable, rien n'est gravé, en fait. On peut modifier les conditions d'une ville, même s'ils sont là depuis longtemps, en fait. On peut, à travers d'initiatives locales, on peut changer notre ville. Les villes font le nécessaire et essayent d'évoluer bien sûr dans le bien.
Le Conseil de sécurité a fait le point hier après-midi sur la situation au Burundi. L'envoyé spécial de l'ONU pour ce pays, Michel Cafando, a expliqué que la situation demeurait tendue et il a noté une montée de l'intolérance politique et des atteintes aux libertés. On l'écoute.
Il faut tout d'abord noter qu'à mes égards, la situation au Burundi demeure tendue. Au cours de la période considérée, on a observé une montée de l'intolérance politique et des atteintes aux libertés civiques et politiques. Le gouvernement a heureusement réagi en mettant en place un cadre de dialogue politique regroupant les partis politiques, les administrateurs locaux et les représentants des forces de sécurité. Cette initiative mérite d'être encouragée et soutenue. La deuxième observation porte sur le processus électoral. Il faut espérer que ce processus sera transparent. Les élections mal organisées et contestées sont toujours source de conflits. Troisième observation porte sur la situation socio-économique. Cette situation continue de se détériorer. La quatrième observation est centrée sur la situation sécuritaire qui, il faut l'admettre, s'est améliorée sur toute l'étendue du territoire, même si, ici et là, des abus et autres violations des droits de l'homme continuent à être rapportés. En tout état de cause, il convient d'encourager le gouvernement de garantir à tout prix la sécurité de tous les citoyens et de mettre fin à l'impunité.
À Genève, cette semaine, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe a organisé une réunion régionale pour faire le point sur les progrès et les défis de la mise en œuvre du programme d'action adopté à Beijing en 1995 sur l'autonomisation des femmes et des filles. La secrétaire d'État française aux droits des femmes et la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a noté que des progrès ont été réalisés, mais que la situation n'est pas pleinement satisfaisante. On l'écoute.
Si nous sommes réunis ici aujourd'hui à Genève, c'est pour faire un bilan de nos avancées depuis la 4e conférence mondiale sur les femmes qui avait eu lieu à Pékin en 1995. Les États y avaient adopté une déclaration et un programme d'action en 12 objectifs stratégiques, s'engageant ainsi à les traduire dans leur politique nationale. Ces documents, ils demeurent à ce jour les plus ambitieux et les plus universels qui aient été adoptés sur les droits des femmes au sein des Nations Unies. Je crois que cela mérite d'être souligné. Depuis cette conférence, nous sommes entrés dans le 21e siècle. Les progrès et les avancées sont là, mais la situation n'est pour autant pas pleinement satisfaisante. Je crois que nous sommes encore loin d'une pleine égalité entre les femmes et les hommes, et ce, partout dans le monde. Comme je le répète souvent, aucun pays dans le monde n'a atteint l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Aucun, La France non plus. Ce combat pour les droits des femmes, je crois qu'il doit revenir à la priorité de l'agenda international et diplomatique. C'est la raison pour laquelle le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé à la tribune de l'ONU l'année dernière à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause mondiale et à nous engager collectivement dans cet objectif.
Un sommet sur les zones de haute montagne s'est tenu à Genève pendant 3 jours cette semaine pour définir des mesures prioritaires à prendre afin de favoriser le développement durable, réduire les risques de catastrophes et adapter ces zones au changement climatique. Samuel Morin est chercheur à Météo France et dirige le Centre d'études de la neige à Grenoble en France. Pour lui, mieux connaître ce qui se passe dans les régions montagneuses permet de créer des services d'anticipation et de prévision. Il était au micro de Florence Westgaard.
Dans le cadre du rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère qui est sorti au mois de septembre, dans lequel il y avait un chapitre entier dédié aux zones de montagne, on a pu documenter les effets principaux du changement climatique sur la cryosphère de montagne, c'est-à-dire la neige, les glaciers, le permafrost, le sol gelé. Et on constate une raréfaction de l'enneigement à basse altitude. On constate aussi un retrait généralisé des glaciers dans l'ensemble des montagnes du monde. Et on constate aussi un réchauffement du permafrost, donc des zones de sol gelé, qui ont des conséquences sur les risques naturels et qui ont aussi des conséquences par l'évolution des glaciers et de la neige sur les ressources en eau. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles l'ensemble des données convergent vers cette évolution marquée des conditions physiques des zones de montagne qui a des conséquences pour les écosystèmes, la faune et la flore et qui, in fine, a aussi des conséquences pour les activités humaines, que ce soit dans le secteur du tourisme, que ce soit dans le secteur, de manière générale, des modes de vie des gens qui vivent en montagne, sur l'agriculture également. Tous ces secteurs sont affectés à divers degrés dans les zones de montagne sous l'effet du changement climatique.
Et vous, en étant chercheur, vous avez pu voir de première main justement les répercussions de ces changements sur les populations. Vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples ?
Dans le secteur du tourisme, par exemple, on constate une raréfaction de l'enneigement à basse altitude et ça a des conséquences pour les activités des stations de sport d'hiver. En France, en Suisse, en Italie, mais aussi dans des zones de montagne en Amérique du Nord, au Japon, on constate dans certains cas la fermeture de certaines stations parce que les conditions sont devenues trop défavorables pour l'activité. Et puis, de manière plus générale, on observe une adaptation de certaines stations avec la mise en place de l'enneigement artificiel, de la neige de culture, du damage, de différentes méthodes pour essayer de parer aux effets les plus négatifs liés à la raréfaction de l'enneigement. Il y a aussi des conséquences très visibles sur l'alpinisme, sur la façon dont les gens pratiquent la montagne et la haute montagne, du fait du retrait des glaciers, du fait de la déstabilisation des parois rocheuses. Ça, c'est des choses qui touchent finalement la façon dont les populations humaines, qu'elles habitent ou pas dans les montagnes, pratiquent et ont une relation avec cet environnement particulier.
Et ça affecte aussi la sécurité alimentaire, n'est-ce pas ?
Alors, dans certaines régions, ça a des conséquences sur la sécurité alimentaire. Ceci dit, la sécurité alimentaire, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que l'effet du climat. Ça, évidemment, c'est touché par l'évolution des ressources en eau, mais il y a tout le fonctionnement socio-économique sur les imports, les exports, la façon dont la chaîne alimentaire et les systèmes alimentaires sont organisés. Donc effectivement, le changement climatique, les perturbations sur la disponibilité de l'eau, ça a des conséquences sur la production agricole. Mais effectivement, il y a des effets beaucoup plus multiples, finalement, qui touchent la sécurité alimentaire. C'est difficile de mesurer encore à l'heure actuelle quelle est la part de la réduction sécurité alimentaire qui est liée intrinsèquement à l'évolution, en particulier de la neige et des glaciers. On sait qu'il y a des effets du changement climatique, notamment sur l'élévation des températures, qui posent des difficultés sur la croissance de certains types de produits agricoles. Voilà, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui ne peut pas s'envisager uniquement sous l'angle climatique.
Donc, durant ce sommet, justement, des discussions vont avoir lieu pour discuter de solutions pour limiter les effets du changement climatique. Donc, quelles solutions voyez-vous qu'il faut entreprendre ?
Alors, le sommet, il touche généralement l'ensemble des services météorologiques, climatiques, hydrologiques qui sont assurés pour les régions de montagne. Donc évidemment, le changement climatique, c'est un élément de contexte extrêmement fort, mais ce n'est pas le seul. Hein. Il y a toujours eu des catastrophes, il y a toujours eu des événements relativement perturbants du point de vue météorologique qui se passent dans les zones de montagne. Donc quelque part, avec ou sans changement climatique, les zones de montagne ont besoin, comme le reste du monde, de disposer d'informations précises pour pouvoir organiser leurs activités, pour pouvoir parer aux risques naturels les plus dramatiques. Et effectivement, le changement climatique amplifie certains de ces changements, en modifie le caractère, et ça fait partie des choses effectivement qui sont dans notre ligne de mire. Et ce qu'on mesure effectivement, c'est que les zones de montagne sont des zones qui, dans certaines régions du monde, ont bénéficié de moins d'observations. On pense à l'Himalaya, à l'Amérique du Sud par exemple, moins d'observations que d'autres régions de montagne du monde, voire même que d'autres régions du monde. Et on mesure le besoin de mieux connaître ce qui se passe dans ces régions de montagne pour construire des services, notamment d'anticipation, de prévision, d'alerte précoce des dangers, à la fois des risques naturels, mais aussi des sécheresses ou de la façon dont on organise aussi l'agriculture ou le tourisme, par exemple, en utilisant des moyens de prévision améliorés pour lesquels on fasse intervenir aussi les connaissances locales de la part des populations qui vivent dans les montagnes et qui disposent de connaissances dont on peut tirer parti.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur notre page internet, nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.